Bien, bonjour à toutes et tous. Avec un petit peu de retard, je vais essayer de faire un peu plus vite que ce que j'avais prévu. Donc, François m'a demandé de présenter un petit peu les raisons pour lesquelles la LDH s'intéresse à ces questions. La LDH, c'est la Ligue des droits de l'homme. Donc, vous savez sans doute que c'est une vieille dame qui vient d'avoir 120 ans il y a quelques mois. Et on pourrait se demander pourquoi se préoccupe des questions qui occupent votre colloque. Je vais essayer rapidement d'expliquer. En tant qu'animateur de son groupe de travail national santé bioéthique, qui fonctionne depuis 7-8 ans et dont je suis co-responsable depuis 5 ans, en tant qu'élu national aussi de la Ligue des droits de l'homme, pourquoi et comment on intervient sur ces questions? Quand même, pour me présenter rapidement, je suis professeur retraité, je ne suis pas médecin, j'ai assuré des formations d'aide-soignant, d'infirmier et j'ai été responsable du Centre national de ressources pour la formation des professeurs de sciences médico-sociales sous l'égide de la direction des lycées-collèges à l'époque. Et les formations que j'ai assurées de soignants sont des formations qui étaient organisées dans le cadre de l'éducation nationale. Je le dis parce que malheureusement, dans ce domaine, il y a trop de formations qui sont des formations payantes, coûteuses et qui d'ailleurs sont pour une part la cause de la pénurie de soignants, pas seulement d'ailleurs, mais en partie la cause de la pénurie de soignants qui affecte notamment le service hospitalier et le service public hospitalier en ce moment. On pourra y revenir si, mais ce n'est pas le sujet principal. La Ligue des droits de l'homme se préoccupe assez logiquement, comme vous le savez sans doute, essentiellement des droits, mais on l'attend parfois moins sur les droits économiques et sociaux que sur les droits et libertés publiques. Et pourtant, y compris dans sa longue histoire, dès les années 20, s'est préoccupé des droits économiques et sociaux à l'époque où le droit de grève était en cause, et notamment sur un certain nombre d'affaires qui sont moins médiatisées que l'affaire Dreyfus, mais notamment sur ce qui est arrivé à un syndicaliste de Port du Havre, sur lequel je ne m'étendrai pas, mais sur lequel on peut revenir éventuellement, si vous voulez. Alors, dans les droits économiques et sociaux, qu'on considère, nous, comme des droits économiques à part entière, des droits, je veux dire, à part entière, la Ligue des droits de l'homme introduit évidemment dans les droits économiques et sociaux tout ce qui a rapport avec l'ensemble des questions de santé, et elle agit sur des axes bien précis qui ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres, mais sur l'effectivité qui est son premier axe d'ailleurs pour l'ensemble des droits, c'est-à-dire il y a des droits affichés, des droits qui relèvent d'un certain nombre de textes, mais qui pour une part ne sont pas forcément effectifs. Et dans le domaine de la santé, c'est comme dans d'autres d'ailleurs le cas. Deuxième élément, elle agit pour que tout un chacun, quel que soit sa situation, son territoire, puisse avoir accès à des soins de qualité. Et on sait évidemment que parmi les problèmes d'aujourd'hui, et qui comportent d'ailleurs une dimension liée non pas à la surmédicalisation, mais à la sous-médicalisation, il y a évidemment ce qu'on appelle maintenant des déserts médicaux, mais ce cumul-là des inégalités territoriales qui viennent renforcer souvent des inégalités sociales, dont on avait fait les analyses depuis longtemps. Hein, sociologues comme géographes de la santé ont travaillé ces questions. Mais les inégalités territoriales sont donc venues se cumuler avec d'autres inégalités. Enfin, pour la Ligue des droits de l'homme, et notamment dans la période plus récente, on vient d'ailleurs de faire successivement deux journées d'études, dont une avec Martin Vinclair, une autre avec les auteurs des textes de 2002, notamment un des rédacteurs des textes sur la démocratie sanitaire, qui est moins connu que le ministre de l'époque, mais qui est maintenant directeur général de l'UNIOPS. Et on a intégré le fait, la démocratie étant aussi un des grands axes de réflexion et d'action de la Ligue des droits de l'homme, que dans le domaine de la santé, et c'est valable pour la thématique de votre colloque, la démocratie sanitaire, l'effectivité de la démocratie sanitaire, avec notamment le droit des citoyens à participer aux réflexions sur les évolutions du système de santé, et y compris sur les thérapies, en étant coacteur des soins, c'est une des préoccupations du moment, c'est une des préoccupations déjà anciennes pour un certain nombre de soignants. Hein. J'évoquais Martin Vinclair parce qu'il a quand même été un des précurseurs, pas le seul, mais nous avions aussi Michel Basse et d'autres médecins, sociologues, spécialistes de ces questions. tout récemment, là, début novembre, dans une journée d'études. Ce qui l'a fait avancer et qui participe de cette notion de coacteur, c'est que l'écoute en santé est déjà un élément du soin. Et ça, c'est loin d'être encore admis, on pourrait dire, dans l'ensemble de la communauté médicale ou scientifique. Et ça recoupe évidemment la problématique du choix des thérapies et évidemment aussi de la question médicamenteuse. J'ai négligé de vous dire, mais je vois que certains l'ont pris, mais que j'ai mis à votre disposition un petit document, enfin deux documents là-bas sur la table, vous pourrez prendre tout à l'heure, qui faire pas, mais qui complète ce que je dis rapidement. Un qui est une lettre mensuelle qu'on sort et qui a déjà il y a des plus récentes, mais elle est plus volumineuse et elle balaye la totalité quasiment du champ de ce qu'on appelle les questions de santé qui sont finalement extrêmement vastes, puisque le balayage mensuel qu'on fait avec une petite équipe va de la protection sociale jusqu'à des approches de bioéthique ou de santé au travail, ou de santé environnementale, pour ne prendre que quelques exemples. Donc vous avez, c'est plus une revue de presse et d'actualité qui fait un balayage, mais avec quand même un point de vue Ligue des droits de l'homme sur chacun des sujets. Donc vous avez ces documents là-bas à votre disposition. Ça me permet de faire l'enchaînement avec cette diapositive parce que c'était la première fois qu'un président national de la Ligue des droits de l'homme, Jean-Pierre Dubois, intervenait sur une table ronde mutualiste, d'ailleurs à la faculté de Sceaux, que j'animais à l'époque, cette table ronde, et où il rappelait qu'un terrain sur lequel la Ligue a souvent tendance à s'exprimer, qui est le terrain du juridique, n'est pas forcément le seul terrain sur lequel on peut faire avancer, et même loin de là, un certain nombre de préoccupations, et notamment en matière de droits économiques et sociaux, et encore plus dans le domaine de la santé. En rappelant que ce n'était pas une affaire d'avocat et de magistrat, mais que l'effectivité des droits était une question politique qui implique des débats entre citoyens débouchant sur des propositions et des choix de politique publique, c'est particulièrement vrai en santé, et très certainement un des problèmes qu'on a dans notre pays, c'est que sur ces questions, il n'y a pas assez de débats. Et du coup, ça resserre évidemment la décision soit sur des experts, soit sur des champs très spécifiques d'intérêt, qui font qu'il y a une grande nécessité de faire en sorte que l'ensemble des citoyens puissent se saisir de ces questions. C'est pour ça que j'ai tenu à maintenir, à rendre hommage d'ailleurs à Jean-Pierre Dubois, qui n'est plus président. Je profite pour le dire, mais c'est au passage une petite incise, qu'à la Ligue des droits de l'homme, les fonctions exécutives sont limitées à 6 ans de mandat. C'est un peu particulier, il y a peu d'organisations qui sont comme ça. Ça fait une dizaine d'années que c'est une modification statutaire qui fait que, évidemment, ça a des conséquences dans une société très médiatisée comme la nôtre, parce que généralement, les médias, mais même la plupart des gens, ignorent qui est le président ou la présidente. Françoise Dumont, qui vient de laisser ses fonctions, qui était présidente après Jean-Pierre, qui ne restant que 6 ans, évidemment, ne sont pas sous le feu des projecteurs habituels dans les médias. Ah, j'ai peut-être pas mis le bon. C'était peut-être pas ça que vous aviez sous les yeux. Si, vous aviez ça ? Non, bon, voilà. Bon, mais je voulais commenter. C'était ça que je voulais dire. Voilà, ça me permet de faire un enchaînement sur quelques documents qui ont été les premiers et à avoir un soutien de la Ligue des droits de l'homme au niveau national. Je pense particulièrement au manifeste pour une santé égalitaire et solidaire qui a été signé justement par Jean-Pierre Dubois en 2011-2012 et qui venait d'être élu président d'honneur, et par le nouveau président du moment, Pierre Tartakovsky, qui relève des 123 personnalités qui ont signé ce manifeste. Alors si j'en parle particulièrement, je l'ai là d'ailleurs, c'est parce qu'il comporte, c'est le premier document qui, sur le sujet même de votre colloque, pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui ne l'auraient pas connu au moment, d'abord par la plume de ceux qui en sont les auteurs, Frédéric Pierru qui en a été le maître d'œuvre, mais Tabuteau, Grimaldi, Bourdillon, Lyon-Camp, comporte, on pourrait dire, un programme clé en main si le gouvernement qui est arrivé en 2012 avait voulu changer les choses et notamment rendre transparente tout un tas de dimensions de la santé aujourd'hui, en particulier la politique du médicament, en particulier le fonctionnement, l'évolution vers une approche en santé publique plus importante que celle qui continue à avoir cours. Voilà, donc c'est un ouvrage de référence qui, en le relisant, n'a pas trop vieilli. Il manque simplement des dimensions qui ont bougé depuis, comme tout ce qui a évolué en matière d'approche des maladies chroniques et de la santé environnementale, et de ce qu'on appelle, nous, la Ligue, notamment dans le colloque qui a suivi en 2016 avec un numéro de notre revue nationale Hommes et Libertés qui était intégralement consacré à ce colloque, ce qu'on appelle l'amont du soin, c'est-à-dire une dimension qui manque encore beaucoup d'ailleurs hein, par rapport à la thématique de votre colloque. Si on veut réduire la surmédicalisation, notre société devrait, alors il y a des petites avancées à travers le plan Ma Santé 2022, au moins dans le texte, dans le fond, dans la réalité, il y a sans doute beaucoup à faire pour que notre pays soit beaucoup plus actif sur les déterminants environnementaux de la santé qui ne sont pas qu'environnementaux au sens étroit du terme, mais j'entends par là les déterminants environnementaux au sens de l'OMS, c'est-à-dire incluant y compris les conditions de travail, les conditions d'habitat, tout comme évidemment les différents toxiques industriels ou environnementaux simples qui on vient de faire à ce sujet une université d'automne sur les aspects climatiques. Et d'ailleurs ça va être la diapo suivante si j'arrive à vous la mettre. Voilà, c'était le week-end dernier et nous avons examiné quelles seraient les conditions, notamment, d'un environnement sain. C'était l'objet de la troisième table ronde, avec une pluralité d'intervenants, vous avez indiqué sur la droite de la diapo, là, notamment une approche un peu fondamentale de la place de la science par Catherine Bourguin, que certains d'entre vous connaissent peut-être, cette généticienne qui a fait partie des 15 scientifiques qui ont demandé un moratoire après les manipulations génétiques sur embryons qui ont été faites notamment par un chercheur chinois et dont on a eu connaissance dans la communauté scientifique qu'après la naissance des deux jumelles pour lesquelles les modifications entraînent une évolution sur la descendance. Et donc Catherine Bourguin, qui par ailleurs a été fondatrice et animatrice de l'association Science Citoyenne, c'est à ce titre que nous avons des relations suivies au sein de l'ALDH avec son équipe, et qui anime par ailleurs un laboratoire de recherche, le CERMES 3, qui ne le dit pas comme ça, mais qui a la particularité, et c'est pour nous très important, d'être une structure multidisciplinaire, parce qu'on pense que sur l'ensemble de ces questions, comme celle d'ailleurs qui occupe votre colloque, mais vous en êtes certainement représentatif, les évolutions, les réflexions ne peuvent pas être l'affaire que de médecins ou d'une branche spécifique de la science, mais elles doivent inclure de multiples approches scientifiques, anthropologiques, juridiques, économiques, et aucune d'entre elles ne peut prévaloir sur les autres. C'est la dimension pluridisciplinaire qui est importante et c'est l'objet de ce CERMES 3 qu'elle a mis. Voilà, donc tout cela va être, comme ce précédent j'ai mis, mais rapidement, mais vous les retrouverez dans les documents que j'ai laissés, les vidéos sont en ligne dans les jours qui viennent des différentes interventions, donc je ne m'attarde pas, tout comme vous avez en ligne sur le site de l'ALDH et sur le site de l'Université de Nanterre les travaux qu'on a conduits au moment de l'Université d'automne de 2017, qui était la première Université d'automne consacrée par la Ligue depuis dans son histoire sur la santé exclusivement et un peu sur les questions de bioéthique qui se profilaient dans la perspective de la révision des lois bioéthiques qui est en cours, puisque vous savez que le projet de loi est en débat au Sénat, en commission spéciale pour le moment, après avoir été voté par l'Assemblée nationale. Diapo suivante. Pour évoquer très rapidement un des champs d'investissement de la Ligue des droits de l'homme, plus large qu'elle-même, puisque nous sommes participants des travaux de la CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui, sur un vaste domaine, qui s'est appelé dans la vie, après avoir bougé pas mal d'ailleurs dans les formes du texte pendant le moment où on le rédigeait, qui s'est appelé « Agir contre les maltraitances dans le système de santé, une nécessité pour respecter les droits fondamentaux ». Alors on pourrait se dire, à partir de notre thématique, maltraitance, c'est peut-être un peu abusif. En fait, non, il y a des liens très très étroits, parce que dans la maltraitance, il y a le fait de ne pas prendre en compte la situation des personnes qui vont être soignées, de ne pas associer, comme je le disais tout à l'heure, à la construction du soin, les personnes soignées, et même parfois de ne pas prendre en compte du tout ni leur histoire, ni leurs attentes, ni même parfois la totalité des situations qu'ils vivent et qui les amènent à être demandeuses de soins ou à subir des souffrances. J'ai d'ailleurs mis en rouge deux dimensions de points que je ne développerai pas, les autres, hein, humiliation du quotidien, il y avait déjà eu des rapports là-dessus et tout. Il y a deux dimensions qui sont importantes dans cet avis pour sa première partie, hein, qui est les obstacles au droit fondamental d'accès aux soins. C'est le non-respect des droits des patients et du consentement libre et éclairé, qui continue malgré plusieurs avis. Hein, sur le consentement, la CNCDH a fait un avis spécifique il y a déjà 2 ans, 3 ans même, c'était encore la ministre Touraine. Et au passage d'ailleurs, on risque de vous choquer, mais je dois dire la vérité telle qu'elle est. La ministre Touraine avait dit à l'époque qu'il n'était pas question qu'elle vienne perdre du temps avec la CNCDH pour parler du consentement. Alors que pour la première fois, même si on peut considérer que c'est peut-être un coup de com', la ministre de la Santé actuelle a accepté d'être auditionnée pendant 1 heure par notre commission de travail, je représentais la Ligue dans ce groupe de travail de la CNCDH, sur ce projet d'avis. Alors même si elle a mis quelques réserves en répondant à nos questions, en disant n'oubliez pas qu'on est le meilleur système de santé du monde, que, etc. Voilà. Il n'empêche qu'elle est la première ministre de la Santé à avoir fait quand même la démarche d'accepter de venir 1 heure, répondre à des questions et être auditionnée par la CNCDH. Voilà, deuxième aspect de ce qu'on nous avons pointé dans cet avis, qui est en ligne, hein, évidemment, sur le site de la CNCDH, c'est publié au journal officiel, hein, les avis de cette grande institution, hein, comme ceux du Défenseur des droits ou ceux du Comité économique et social et environnemental, c'est à peu près le même niveau. Deuxième aspect étant le refus de soins. Et là-dessus aussi, le refus de soins, c'est quelque chose de préoccupant parce que, théoriquement, il ne devrait pas être sans suite. Il y a un article du Code de déontologie médicale, 47, mais d'autres aussi, mais surtout 47, qui fait que quand un médecin, pour X raisons, ne peut pas assurer des soins, or c'est relativement fréquent encore, pour des CMUistes notamment, qu'il y ait des pratiques de discrimination à ce sujet, eh bien, si on a consacré un passage à ça, c'est parce qu'on a eu beaucoup de témoignages et auditionné pas mal de gens, montrant là que nous sommes dans des dispositifs de sous-médicalisation, avec des rejets, des impossibilités d'accéder aux soins pour des raisons multiples. Alors le refus de soins peut être l'œuvre de praticiens qui devraient normalement en raison des causes éthiques, je dirais, enfin en tout cas du code de déontologie, s'ils ne peuvent pas à un moment donné ou s'ils ne veulent pas, devraient immédiatement désigner un autre médecin pour prendre le relais. Évidemment, dans les dimensions du refus de soins, il n'y a pas que l'intention de certains praticiens. Il y a aussi les conditions même matérielles, notamment l'impossibilité parfois de trouver à porter pour des personnes, et là les inégalités sociales jouent leur rôle, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'aller parfois loin pour trouver le médecin, spécialiste ou autre. Et puis évidemment, il y a d'autres dimensions que vous connaissez bien. Il y a les dépassements d'honoraires qui peuvent contribuer à ce qu'il y ait une forme de refus de soins, ou les délais extrêmement longs pour accéder à telle ou telle spécialité. Donc, la dernière disposition dans cette première grande partie de l'avis, hein, je ne vous balayerai pas tout l'avis, j'ai repris quelques éléments qui sont importants en relation avec votre thématique. Il y a la problématique de l'indisponibilité de traitement. De ce point de vue, il y a évidemment tout ce qui tourne autour du coût du médicament. Là, on se rapproche de votre sujet, puisque au moment d'ailleurs où on a fait ces auditions et écrit cet avis, le CESE, le Comité économique, social et environnemental, avait déjà publié un rapport, hein, puisque notre travail est de 2018, là, et le CESE venait de publier un rapport sur les prix et les accès aux médicaments innovants, qui est certainement quelque chose, je regrette de ne pas avoir pu être là hier, mais que vous avez certainement évoqué, donc je ne m'attarde pas, puisque les choses ont bougé dans ce domaine un peu, mais pas beaucoup, depuis ce moment-là. Dans l'indisponibilité des traitements, il y a une deuxième dimension, hein, qui sont les ruptures d'approvisionnement de médicaments, sur lesquelles il y a eu plusieurs études depuis, y compris parlementaires. Et puis, il y a un point qui n'est pas toujours bien mis en évidence, mais que nous avions pointé à travers un certain nombre d'auditions, qui est le fait que les échantillons de population sur lesquels sont effectués un certain nombre d'essais cliniques sont parfois absolument pas représentatifs de la population. Ne prennent pas en compte notamment les dimensions d'âge, les dimensions de poids et sont souvent à majorité masculine, avec donc des incidences sur des traitements proposés ensuite aux femmes ou aux personnes âgées, ou en bref, qui ne sont pas ajustés et rarement réévalués. Voilà, j'ai balayé là quelques aspects seulement de ce très long avis vers lequel je vous renvoie. Alors là, j'ai fait une petite pause humoristique, là, en reprenant de la revue Pratique, déjà ancienne, hein, numéro de 2003, Pratique, vous connaissez certainement, hein, c'est très lié à Prescrire, hein, c'est l'équipe de Pratique qui a essaimé pour faire Prescrire. Donc voilà, sur la collusion à propos du médicament. Alors j'en viens à deux communiqués qui sont d'ailleurs les deux seuls récents qu'a pu faire la Ligue des droits de l'homme sur ces questions qui occupent votre colloque, qui restent des questions d'actualité, même si, comme je disais, les choses ont un tout petit peu bougé. En juillet 2016, donc avant l'avis de la CNCDH, la Ligue des droits de l'homme a appelé à soutenir une campagne qui a été peu médiatisée parce qu'elle a été censurée, la campagne de Médecins du Monde qui a été titrée « Le prix de la vie ». Vous auriez dû voir, tout le monde aurait dû voir, dans toutes les gares, de métro, de train, un peu partout en France, de super belles affiches que nous n'avons pu montrer qu'à notre université d'automne, parce que dans la plupart des cas, elles n'ont pas été vues, tout simplement parce que l'agence de publicité, qui a quelques liens d'ailleurs par ses administrateurs avec un certain nombre de dirigeants du LEB, hein, la branche du MEDEF de l'industrie pharmaceutique, a décrété que c'était un déni de concurrence et que ça pouvait porter tort aux relations internationales, parce qu'à l'époque, pourquoi Médecins du Monde avait lancé cette grande campagne, que nous avons donc soutenue, c'est parce qu'il y avait l'affaire de ce laboratoire américain, Gilead, dont vous avez certainement entendu parler, donc je ne vais pas m'étendre dessus, à propos des médicaments concernant les soins des malades, les hépatites, et avec l'idée à l'époque que dans la mesure où ces médicaments permettaient de sauver des vies, pour la première fois dans l'histoire de l'industrie pharmaceutique, les prix, mais vous l'avez sans doute évoqué, hein, je le dis très rapidement, les prix n'étaient plus fixés comme ils l'étaient par le passé, c'est-à-dire la dimension recherche-développement, la dimension coût de fabrication et la dimension actionnariat, puisque on n'a pas aujourd'hui, c'est-à-dire une des questions qui pourrait se poser, mais vous avez peut-être posé hier, on n'a pas de dispositif public de fabrication de médicaments, en dehors de quelques médicaments rares fabriqués par les laboratoires de la PHP à Paris, il n'y a plus d'industrie publique en France, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Et donc, pour la première fois, ce laboratoire, à l'échelle internationale, avait décidé d'ajouter une dimension dans le coût de vente de ses produits et de considérer que, puisque ça sauvait des vies, il fallait vendre les médicaments au prix des vies dans les différents pays où il allait les vendre. Ce qui fait qu'ils ont constitué des focus group par pays, et ça a donné, pour un traitement de 3 mois en France, un peu plus de 40 000 euros. Pour un produit dont le laboratoire de la PHP avait dit à l'époque que pour 150 $, 150 euros en gros, il pouvait le fabriquer dans les mêmes conditions. Et ça avait donné lieu à une campagne importante de Médecins du Monde auprès de la ministre de l'époque, pour dire mais saisissez-vous de la possibilité qui existe dans le code de la propriété intellectuelle de faire fabriquer par un autre laboratoire en France à partir du moment où il y a une cause de santé publique, ce qu'avaient déjà saisi 2 ministres antérieurs, un de gauche, un de droite, à d'autres occasions. Eh bien, il y a donc eu une grande campagne de Médecins du Monde qui n'a pas abouti directement, qui a abouti un peu, mais pas directement, d'autant que la campagne d'information des citoyens, comme je vous disais, n'a pas pu avoir lieu. Voilà, ça c'était donc la première intervention de la Ligue des droits de l'homme sur cette question. Ça, je vais passer vite parce que vous n'allez rien voir. Et en gros, c'est ce que je vous ai développé oralement pour... voilà, c'était d'ailleurs 41 000 euros, très précisément, j'avais arrondi là, pour un coût de fabrication évalué à 100 euros par les laboratoires de la PHP. J'étais même un peu au-dessus en disant 150. Voilà. Et ça devait en plus inclure encore une marge bénéficiaire de 50%. Voilà, donc c'était le communiqué que nous avions pris à l'époque, les deux co-animateurs, Emmanuel Fournéron et moi-même, pour la Ligue des droits de l'homme. Je signale, si je vais quand même je vais quand même passer la diapo suivante très rapidement, mais vous n'allez peut-être pas pouvoir lire, mais je vais la commenter rapidement. Voilà. Juste pour évoquer d'ailleurs pour ceux et celles, mais peut-être vous connaissez tout ça par cœur, qui ne l'auraient pas vu, ça fait partie d'une séquence du film de Gilles Perret, La Sociale, qui montrait les pathologues de la PHP de Paris, d'un hôpital parisien, qui mettait en évidence une dimension non négligeable par rapport à votre problématique sur la sous-médicalisation, puisque pour la première fois, ça introduisait en France la nécessité de choisir les patients pouvant avoir pourtant les mêmes raisons de bénéficier de ce traitement, tout simplement parce que le coût exorbitant accepté à l'époque par le comité des prix et en fait par le gouvernement, par la ministre, qui avait répondu à Médecins du Monde, il faut quand même le savoir, ils l'ont rencontré trois fois, elle a répondu à la question « Pourquoi vous ne vous saisissez pas des possibilités juridiques qui le permettent ?» Elle a répondu « Mais si je fais ça, c'est la guerre avec l'industrie pharmaceutique. » Voilà, donc ça a apprécié et du coup, c'est pour ça que ça n'a pas évolué plus que ça. Ça a donc quand même eu un certain rayonnement, je dirais, dans la population par le biais de ce film, puisque l'hépatologue en question, qui est par ailleurs animatrice du mouvement pour la défense de l'hôpital public, avait été filmée par Gilles Perret. Donc, dernier point qui est plus récent, celui-là, sur des questions en rapport avec votre colloque, la Ligue est intervenue, puisque là, c'est mai 2019. C'est un communiqué qu'on a pris après avoir été en contact avec un certain nombre d'acteurs à l'occasion de l'Assemblée générale de l'OMS, qui a été amené, mais vous l'avez peut-être évoqué hier, donc je ne vais peut-être pas revenir dessus, sur la même question, c'est-à-dire l'accès aux médicaments avec la nécessité d'une plus grande transparence du prix du médicament et la nécessité de lutter contre une sélection de patients pouvant résulter de coûts exorbitants. Ça a fait l'objet d'un débat au sein de l'Assemblée générale de l'OMS, puisqu'il y avait quand même, cet appel était lancé par une centaine d'ONG et de personnalités en mai dernier à Genève, et ça fait partie des questions qui sont toujours en suspens. La dernière, c'était la fin de ce, et c'est ma dernière diapo, et donc j'ai simplement mis en rouge là deux, trois points sur lesquels nous avions insisté dans notre communiqué, donc éviter que s'installent des sélections de patients pouvant bénéficier ou non des nouveaux traitements, et que donc se creusent des inégalités d'accès à des soins de qualité, tant entre les personnes malades qu'entre les pays, les deux dimensions sont importantes, avec déjà les inégalités profondes qui peuvent exister entre pays, et puis on soulignait que la Ligue des droits de l'homme se montrait, la Ligue des droits de l'homme de France, parce qu'il y en a dans chaque pays, se montrait préoccupé de l'inflation des coûts des médicaments, risquant, alors ça c'est particulièrement important pour nous, risquant dans l'équilibre des comptes en matière de santé, de limiter par ailleurs la capacité de développer des politiques de santé publique, dont on voit très bien qu'elles sont toujours très insuffisantes, de limiter aussi des actions ambitieuses sur les déterminants de la santé en amont des soins. Et quand on voit le peu d'écho qui est fait aujourd'hui encore aux chartes contre les perturbateurs endocriniens, enfin aux différents travaux du réseau environnement santé, à un certain nombre d'autres que j'évoquais par rapport à notre université d'automne, on voit que là-dessus, on a encore beaucoup à faire. Voilà, je m'arrête là et je suis à votre disposition pour vos questions, mais bon, on est dans les...